Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, fidèles auditeurs, pour vous servir. Merci de nous écouter. Partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières, sur www.radiookapi.net. Comment assurer un financement durable des aires protégées? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Alain Parfait Ngoulungu, expert en environnement et représentant pays de l'ONG Ténure Facility. Et il sera tout à l'heure en ligne avec lui, nous allons discuter après ce congrès tenu à Kigali, voilà, le congrès africain dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète. Nous allons échanger avec notre invité sur le financement des parcs ou des aires protégées de la RDC. Appelez pour participer au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des appels d'offres des blocs pétroliers lancés par le gouvernement congolais. Comment évolue le processus? Nous aurons comme invité, si tout va bien, Monsieur Didier Bidimbu, ministre des hydrocarbures. Pour participer à cette émission, composez déjà le 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de ce programme. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons du financement des aires protégées. Comment assurer un financement durable des aires protégées? Bien, il s'est tenu dernièrement à Kigali le premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète. Pour certains experts, il faut environ 1000 dollars par kilomètre carré pour bien gérer une aire protégée. Par ailleurs, un projet des fonds panafricains a été lancé pour ne plus dépendre des revenus touristiques. Alors comment la RDC peut financer durablement les parcs nationaux, les aires protégées que nous avons dans notre pays? Alain Parfait Ngoulungu, vous êtes le représentant pays de l'ONG Ténure Facility. Vous êtes expert en environnement. Bonjour.
Bonjour, Jody, et salutations à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Alors, il s'est tenu dernièrement le premier congrès africain dédié aux aires protégées. La grande question qui était sur la table, c'est par rapport au financement durable des aires protégées. La première question est de savoir, Alain Parfait, qu'est-ce qu'on entend par aires protégées?
Merci beaucoup pour la question. L'aire protégée est une zone déclarée espace de conservation par la loi en la matière. Ce qui nous concerne, c'est la loi sur la conservation de la nature. Et la RDC a un réseau important d'aires protégées. Cela remonte depuis plusieurs années que le réseau d'aires protégées en République démocratique du Congo a été créé. Mais on sait qu'il y en a plusieurs catégories, telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature a classifié, où on voit les catégories des aires protégées qu'on appelle les parcs, la réserve naturelle intégrale, les zones de nature sauvage, ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle des paysages terrestres ou marins protégés. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des aires protégées avec une utilisation durable des ressources naturelles. Et donc, cet ensemble de planifications, des classifications, on les retrouve aussi ici dans notre pays, la RDC.
Bien. Alors, un mot par rapport à ce premier congrès africain dédié aux aires protégées qui s'est déroulé dernièrement à Kigali.
Oui, il s'est déroulé dernièrement à Kigali, je crois la semaine passée, une grande messe organisée par l'Union internationale de la conservation de la nature avec plusieurs autres organisations qui a réuni plus de 53 pays qui représentaient pratiquement 2400 participants pour tabler sur les problèmes liés à la conservation des aires protégées en Afrique. Et ce congrès avait pu identifier et reconnaître notamment les pouvoirs de toutes les communautés qui riveraines aux aires protégées, et mais aussi pour mettre en place des mécanismes durables de financement pour justement gérer de façon durable les aires protégées.
Bien, Alain Parfait, vous êtes expert sur le en ce qui concerne le financement climatique. Alors dites-nous comment financer durablement les aires protégées de la RDC.
Bon, en théorie, il y a plusieurs outils ou mécanismes qui sont mis en place au-delà des subventions budgétaires ou des bailleurs de fonds ou des programmes développés par les ONG. Il y a ce qu'on appelle de créer des fonds fiduciaires pour la conservation de la nature, mais il y a aussi, on peut développer ce qu'on appelle une éco-fiscalité, c'est-à-dire à partir d'un outil fiscal, on peut commencer à taxer certaines activités liées à la protection de la nature pour justement être compensé par rapport aux activités réalisées sur une zone donnée. Et donc tous ces mécanismes-là sont mis en place pour pouvoir mobiliser les financements afin d'assurer une gestion durable des aires protégées.
Mais aujourd'hui, à ces jours, comment la RDC fait pour mobiliser les fonds afin de financer les aires protégées?
Oui, l'on doit reconnaître sincèrement que la RDC fait un effort. Il y a les fonds CAPI qui existent déjà. Et donc c'est un autre mécanisme qui a été mis en place, un mécanisme judiciaire pour justement commencer à mobiliser les financements pour venir en appui au réseau d'air protégé en RDC. Donc il y a aussi des subventions budgétaires, et voire même aussi dans le cadre de la coopération internationale, des partenaires internationaux qui accompagnent la gestion durable des aires protégées en RDC. Et donc tous ces mécanismes sont mis en place, toutes ces sources de financement sont réunis pour justement accompagner la RDC dans le cadre de la gestion des aires protégées. Et nous espérons que cela va continuer avec d'autres mécanismes. Et comme vous l'avez si bien dit, le ministère des hydrocarbures entend par une adjudication procéder, je crois, au lancement de l'appel d'offres pour l'exploitation pétrolière dans certaines zones jouxtant justement les aires protégées, et nous espérons bien que ça sera aussi si ces adjudications-là respectent les conditions environnementales et sociales à travers, bien entendu, une étude stratégique d'évaluation d'impact environnemental et social. Et cela peut s'avérer comme un mécanisme de mobilisation des fonds pour appuyer la gestion durable des aires protégées.
Bien, quand vous parlez des fonds fiduciaires, la création des fonds fiduciaires, de quoi s'agit-il exactement?
La création d'un fonds fiduciaire, c'est un mécanisme de financement qui est entièrement dédié justement à supporter ou à appuyer, si vous voulez, la gestion, en ce qui nous concerne ici, c'est l'air protégé. Donc on peut mettre en place ces fonds-là pour justement soutenir, mobiliser les fonds pour appuyer toutes les activités liées à la gestion durable de ces terres protégées. C'est dans ce sens-là que nous avons, où il a été identifié ce fonds-là fiduciaire comme étant un mécanisme pouvant soutenir le développement durable d'une aire protégée.
Et comment ça fonctionne concrètement?
Oui, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Hein. En ce qui concerne les fonds CAPI, il me semble que ça fonctionne. Il y a un comité de gestion qui est là dedans. J'aurais souhaité que vous approchiez les leaders de ces fonds-là, qui sont aussi des Congolais et certains étrangers qui gèrent ces fonds-là. Je crois que c'est à partir de Londres où se trouvent les sièges.
Voilà, donc il y a cela. Vous avez parlé aussi de certaines, il faudrait peut-être commencer à taxer certaines activités, lesquelles par exemple, et comment va-t-on procéder pour prélever ces taxes?
Oui, si on développait l'éco-fiscalité, c'est juste pour mettre en place un mécanisme de compensation par rapport aux impacts que connaissent l'environnement les plus immédiats où se font les activités, notamment les activités minières. Et cette taxe-là sera là pour justement compenser tous les dégâts socio-environnementaux que commettent cette exploitation. En espèce, j'ai cité comme l'exploitation minière que l'on retrouve un peu partout dans les abords des aires protégées et qui ont un impact considérable sur les habitats ou des espèces, notamment dans les aires protégées.
Bien, nous parlons aujourd'hui des mécanismes de financement durable des aires protégées. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94 et écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Comment assurer un financement durable des aires protégées? Nous avons en ligne Bienvenue depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Okapi.
On vous écoute, bienvenue.
Oui, je dis aujourd'hui parce que l'attention de l'humanité tout entière est focalisée vers l'environnement. Mais en soi, en réalité, si vous analysez en RDC ou en Afrique en général, comme si nos autorités ne tiennent pas cette opportunité. Créer un fonds panafricain pour protéger les aires protégées, permettez-moi la tautologie. Moi, je pense qu'en Afrique, ça va pas aller parce que nous savons presque toutes les organisations africaines souffrent du financement. Créer un fonds panafricain, je doute fort que les États africains seraient à mesure de décaisser les moyens conséquents. Parce que nous voyons même si l'organisation de l'IA elle-même fonctionne difficilement à cause du financement. Moi, je crois pour que les aires protégées aient un très bon financement, il faut seulement développer le tourisme. Créer les mécanismes qui feront en sorte que le tourisme ne soit pas... un peu asphyxié pour venir au pays. On peut développer le tourisme local. Donc, il y a plusieurs mécanismes. L'invité a très bien dit, on peut développer la notion de pollueur payeur. Donc, toute activité qui pollue l'environnement, du coup, ils peuvent contribuer à ce fonds-là. Mais dire qu'un fonds panafricain, moi, je pense que c'est un mort-né. C'est un mort-né avant même que cela soit effectif. Ça ne va pas bien fonctionner. Du coup, il faut dire cela.
Bien, merci, bienvenue de Kinshasa. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité ainsi qu'aux nombreux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Charles?
Oui, par rapport à cette question, moi je ne sais pas si lors de ces congrès, est-ce que les congressistes ont évoqué si la question ou les grands mots ou les grands défis qui rongent les aires protégées en RDC, entre autres les braconnages, l'exploitation illicite, voire même la pénétration illicite ou non autorisée. Car tant qu'on ne mettra pas fin à ce mot qui ronge ce secteur, les dix financements durables ne sera qu'une simple eau versée sur les dos du canard. Alors je ne sais pas si l'invité peut nous aider à nous faciliter la tâche. Est-ce que cette question aussi a été aussi invoquée Voilà un peu ce que nous voulons savoir.
Merci Charles de Lumbashi. Monsieur Alain Imparfait, vous avez la parole.
Je dois noter que personnellement, je n'ai pas pris part, malheureusement, suite à des difficultés des relations bilatérales que nous avons avec un pays comme le Rwanda, à prendre part à cela, mais certains collègues y ont pris part. Pour répondre très rapidement à la question posée par Bienvenue de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle les externalités négatives qui produisent, par exemple, un agent économique dans le cadre de ses activités. C'est ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire cela vise à internaliser les effets, les externalités négatives d'une exploitation. Alors, cet agent-là économique, cette entreprise-là, est appelée à subventionner ou à payer la pollution causée par son activité et qu'il arrête s'il y a moyen de continuer à endommager l'environnement pour le cas d'espèce pour l'exploitation d'une entreprise, que cela soit minière ou autre. Et donc, c'est cela qu'on appelle comment internaliser les externalités négatives. Bon, évidemment, ce sont les économistes qui connaissent ça. Il y a plusieurs instruments que l'action publique met en place, notamment les réglementations, c'est-à-dire les normes, pour essayer de limiter les impacts négatifs d'une pollution ou d'une activité d'une entreprise donnée. Il y a aussi la fiscalité, donc l'écofiscalité, comment réguler les prix pour inciter à faire mieux en respectant les normes sociales et environnementales par rapport au prorata, justement, de tous les dégâts causés par votre exploitation minière en cas d'espèce plutôt. Il y a aussi les marchés de droits, c'est-à-dire on peut réguler certaines quantités de production par rapport à par rapport pour justement amener les gens, inciter les agents économiques à réduire ou à minimiser les coûts sociaux ou environnementaux lors d'une exploitation donnée. Et donc, tous ces instruments mis en place par l'État peuvent mobiliser les financements qui soient susceptibles de pouvoir soutenir la gestion durable d'une aire protégée et cela réduirait cet impact-là écologique sur l'environnement ou l'air protégé, comme nous sommes en train de le discuter en ce moment.
Bien, et bienvenue depuis Kinshasa, qui pense que créer un fonds panafricain, tel que ça a été décidé à la rencontre de Kigali, pour lui c'est utopique, ça ne pourra jamais résoudre le problème.
Bon, c'est un choix souverain des congressistes à cette réunion-là de Kigali, mais je reconnais aussi qu'ils ont énoncé des principes comme le principe d'une gouvernance équitable et d'une inclusion de toutes les parties prenantes, notamment les communautés riveraines aux aires protégées, dans la gestion de cette entité. Et donc, pour moi, c'est une avancée. Il y a aussi on appelle aussi à que la conservation tienne compte aussi de l'élan de développement, un développement qui soit durable, des communautés environnementales, environnantes, mais aussi de pouvoir mobiliser les fonds pour assurer, si vous voulez, la gouvernance, une très meilleure gouvernance politique. On ne veut pas qu'il y ait, par exemple, des actes terroristes dans les aires protégées qui sont consacrés à la conservation, alors que la plupart des aires protégées, comme les cas indécis actuellement, loge des mouvements rebelles. Et donc, on voudrait vraiment que la communauté internationale se mobilise pour éviter dans des aires protégées où il y a une biodiversité importante, et dans les aires protégées où il y a un rôle majeur que jouent ces aires protégées-là dans les changements climatiques, qu'on voit encore des mouvements rebelles, des groupes rebelles s'y implanter et mener leurs activités. Nous pensons que cet appel de Kigali, c'est vraiment un cadre qui appelle à beaucoup plus la communauté internationale à l'action, et on espère bien que c'était le notre souhait, que même les fonds fiduciaires mis en place sera abondé de financements pour pouvoir faire face à toutes les crises que connaissent les aires protégées en Afrique.
Bien, Justin Koulou nous appelle depuis Fungurume. Bonjour Justin.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à notre invité qui est au studio. qui peut-être vous allez chercher comment nous réunir en nous donnant ses contacts. J'ai grandement besoin de lui à la fin de l'émission. Sinon, pour ma contribution, c'est demander la tête de Jean-Baptiste avec les herbes protégées ici au Congo. Parce qu'il y a le bois qui, notre, principalement notre vie en dépend. Il y a ceux qui les utilisent pour les braises, donc le revenu de la maison, c'est seulement couper les braises et on mange à la maison. Et depuis ma naissance, j'ai trouvé ça depuis nos ancêtres, pour cultiver les manioc, les maïs, il fallait couper les bois, brûler et les maïs vont sortir. Donc imaginez, cette année vous êtes ici, l'autre année c'est là-bas et ainsi de suite. C'est ce qui a donné le réchauffement climatique précoce dans le territoire de Bukama, dans la province du Haut-Lomami. J'étais en visite, j'ai trouvé une ONG qui s'appelle Tumufuate avec le président Albert Kabinga, appuyé par le directeur général de la Jetamine, Yenga Yenga. Il les donne des moyens, puisque le climat, le résultat du réchauffement climatique pointe déjà à l'horizon. Et c'est déjà une catastrophe pour les gens de ce point-là. Et Luena a une forte quantité de charbon. Ça se trouve même superficiellement. On cultive maintenant les manioc. Après trois ans, donc il y a déjà tous les champs pourris de manioc. Alors, c'est déjà le problème. Notre invité va nous aider et va aider à cette ONG comment il peut procéder comme il est en ordre avec les documents légaux de l'État, le statut notarié, acte 92, ainsi de suite. Comment il peut procéder, puisqu'il a déjà emboîté les pas avec celle de Yangambi, avec Madame Amanda, qui sont déjà de l'autre côté en train de reboiser. Et Luena a maintenant les urgences de reboisement. Si au cas contraire, donc le coin là tombera dans un grand fléau, comme nos politiciens aiment toujours assister les sinistrés, je crois qu'ils commencent déjà à se préparer pour assister les malnutris du territoire de Bukama.
Merci Justin de Fongourmé. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Nous parlons aujourd'hui du financement durable des aires protégées. Bonjour Malonga, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour jeudi, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Moi, ce qu'à dire là-bas, je dis, en tout cas, c'est triste seulement. Le financement ne manque pas. Et le moyen de financer, il y a des experts qui savent encadrer la population qui expolie sur toutes ces aires-là et ses autorités. Mais c'est la volonté politique qui manque. Par exemple, ici chez nous, au Kwilu, nous avions l'air protégé des mangailles, là où il y avait des hippopotames. Il y avait des choses vraiment de nature. Si vous y arrivez, en tout cas, vous serez comme vous êtes dans le paradis. Mais aujourd'hui, si vous arrivez là-bas, je vous l'ai dit, il y a la population qui construit des villages. Il y a aussi des autorités qui achètent l'air tronçonneuse pour couper les arbres. Il y a vraiment des désordres. Ceux qui peuvent interdire cette expoliation, ce sont eux qui commencent à détruire. Alors, comment on va songer à financer pour protéger cette terre? Ce que moi je demande là, le président de la République est là, c'est lui le chef de l'État, et c'est lui qui doit vraiment bien protéger ces terres à cause de la nature. Il est là, il peut intimer ordre seulement. Nous sommes ici de l'environnement. Nous avons notre coordinateur provincial de l'environnement, Madikane Mungala. Il est ici. Il gère cette entité. Mais qu'est-ce qu'il va faire si il voit que les autorités qui sont supérieures à lui, ils commencent à expolier l'air protégé? Il s'était. Alors, c'est l'ordre hiérarchique. Si cet ordre a des puissances, vous voyez que le financement, c'est petit problème. Les trésors publics, il y a de l'argent. On peut encadrer la population, surtout c'est la population qui viole. Cette population, si on l'octroie, vous l'avez annoncé là, hein? Il y avait des experts qui avaient calculé 1000 dollars par kilomètre. Bon, ces 1000 dollars-là, c'est pour encadrer la population de ne pas franchir cette terre-là. Mais si on finance ça, ça ne va pas arriver à la population bénéficiaire, ça va s'arrêter quelque part. Oh, la population sera exposée. Alors, nous les agents de l'environnement ici, nous ne pouvons pas interdire à la population qui vit misérablement de ne pas cultiver là. On la laisse et vous voyez que c'est comme ça que les aires protégées sont exposées aujourd'hui. C'est clair. Moi, je suis un agent de l'environnement ici. Et je sais ce qui se passe. Et ce que je vous dis, c'est peu. Mais c'est beaucoup. C'est dommage et c'est malheur.
Bien, merci. Merci, Malonga. Monsieur Alain Parfait, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup à nos deux compatriotes. Je voudrais dire que, de manière brève, la valorisation du potentiel écotouristique de la RDC pour justement arriver à mobiliser les financements, c'est-à-dire mettre en place un fonds fiduciaire pour la conservation, et voire même au-delà, de mettre en place un dispositif pour paiement et services écosystémiques pour nos aires protégées, demande à ce qu'il y ait d'abord une volonté politique pour justement clarifier notre vision par rapport à la gestion durable des aires protégées, mais aussi comment faire en sorte que ces aires protégées-là profitent à notre économie, contribuent énormément à notre croissance économique, qui soit une croissance bien entendu durable. J'ai compris notre ami qui est du ministère de l'Environnement, qui a posé tous les problèmes avec la réserve d'hippopotame de Mangaï, qui est pratiquement abandonnée à son triste sort. Et cela revient à dire que le gouvernement a vraiment du pain sur la planche pour justement clarifier sa vision. Qu'est-ce que le gouvernement entend par rapport à la gestion durable des aires protégées et comment entend-il pour justement mettre en place un mécanisme pour assurer le financement de tous les réseaux des aires protégées, non pas seulement les réseaux qui sont pris en charge par la coopération internationale, mais les réseaux dans son entièreté. Nous en avons si je ne me trompe pas, plus d'une trentaine d'aires protégées, et donc nous espérons que le gouvernement tiendra compte de cet aspect des choses et prendre en compte finalement tout l'ensemble du réseau d'aires protégées ainsi que des réserves naturelles, ainsi de suite.
Bien. Alors, il y a eu une question. Bon, on a, selon les informations reçues, 9 parcs à protéger et des réserves, voilà, qui sont protégés par l'ICCN, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Alors, il y a une question tout à l'heure d'un auditeur qui est revenu sur la présence des braconniers dans les, au niveau des parcs, etc. Vous avez aussi évoqué la présence des groupes armés, tout ça. Alors, avec tous ces éléments-là, est-ce qu'il est toujours possible de protéger ces aires et ces espaces dans notre pays?
Oui, c'est l'une des contraintes sécuritaires majeures actuellement dans la plupart d'aires protégées, notamment à Salonga, au parc national de Virunga, au parc national de Kahuzi-Biega, au Sud-Kivu. Et donc l'une des contraintes est que la plupart d'aires protégées sont occupées actuellement par des groupes armés. Et c'est là la raison pour laquelle le gouvernement a mis à travers l'ICCN une unité de commandement qui a pour mission justement de traquer tous ces mouvements rebelles dans les aires protégées. Et je crois que l'ICCN collabore avec les forces armées congolaises pour justement mener des opérations militaires dans l'ensemble des aires protégées. Il y en a eu en 2012, si je ne me trompe, au parc national de Salonga. Actuellement, il y en a aussi dans la plupart des réserves qui sont menées pour justement contrer les activités rebelles de ces groupes armés.
Alors, par rapport à la question sur le fonds panafricain, un auditeur nous a dit que c'est une illusion, ce ne sera pas possible. Pensez-vous que ça peut marcher? Comment, quel mécanisme mettre en place pour bien faire fonctionner ce fonds panafricain de conservation de la nature?
Oui, je comprends sa désapprobation ou ses réserves par rapport à la mise en place de ces fonds-là. Mais moi, je suis optimiste. Je crois que l'expérience de Virunga avec les partenariats publics-privés a démontré clairement qu'on peut espérer, en associant les autres parties à la gestion durable des aires protégées. Si vous vous rendez aujourd'hui à Virunga, il y a des activités qui sont menées par les entreprises. Notamment, on a développé un barrage hydroélectrique et il y a la création des entreprises tout autour, justement, de ces terres protégées. Chose qui nous pousse à croire qu'il y a quand même la possibilité, et ça il faut vraiment le souligner, de pouvoir mener
un partenariat public-privé pour faire associer les secteurs privés dans la gestion durable des biens protégés, comme c'est le cas à Virong actuellement.
Bien, il y a bienvenu de Kinshasa qui a dit qu'il faut, d'après lui, il faut tout simplement développer le tourisme local et c'est un moyen pour faire entrer, pour avoir de l'argent, des moyens pour gérer les parcs et les autres aires protégées.
Et effectivement, l'écotourisme local a démontré ses prouesses en finançant dans plusieurs pays du monde les activités de gestion durable des aires protégées. Et je crois que la RDC a un potentiel écotouristique énorme. Il est simplement question actuellement de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement de l'écotourisme pour justement avoir une idée claire sur les activités à mener quant à ceux et de pouvoir capitaliser ces potentiels que nous avons et pouvoir aider énormément à la mobilisation des fonds pour justement nous essayer de créer des emplois, de protéger l'environnement, mais aussi de promouvoir ce qu'on appelle l'inclusion sociale.
Bien, on va accueillir Glody de Kinshasa et Dr Christian de Bounia. Glody, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au financement durable des aires protégées?
Merci pour la parole accordée. Moi je pense que ce que l'invité est en train de dire, oui il a totalement raison, mais nous devons rentrer en amont pour voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Juste je pourrais poser la question à monsieur l'invité. Monsieur l'invité, est-ce que vous sûr avec une fonds propre de notre pays, nous pouvons pas faire telle chose, il faut toujours attendre des financements qui viennent de l'extérieur? Ça c'est d'abord la première question. La deuxième question pour Chiton, par rapport à ce financement-là, comment on peut répondre de parler de financement? Et en retour, si par exemple on est financé, notre pays va faire retour en quoi? Comment est-ce qu'on va rembourser ça? Parce que c'est plus normal. Vous allez se rendre compte que il y a beaucoup de financements qui se donnent au pays, mais vous allez se rendre compte que nos forêts, nos aires protégées, sont toujours en train de se dégrader de plus en plus, on va rester toujours à l'état que nous avons connu. C'est ça que nous avons fait plus contact. Comment faire, en cette dernière question pour chuter, qu'est-ce que notre pays va remettre au retour à ces financements-là? On va remettre ça comment? C'est ça, au moins ça va se passer comment? Si vous pouvez peut-être énumérer certains points, je pense que ça peut aider les uns et les autres qui nous écoutent à partir de ce moment. Je dis et je vous remercie.
Bien, pourquoi attendre toujours le financement extérieur? Et quand on reçoit ce financement, comment est-ce que nous allons rembourser cet argent-là? Docteur Christian, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour l'auditeur, bonjour l'invité. Bon, je voulais parler sur les financements internationaux. Bon, mais ce que je vais demander à nos gouvernements congolais, bon, les financements internationaux, ce n'est pas aussi mauvais, mais les gouvernements congolais doivent mettre un financement national qui joue ici dans notre pays parce que nous avons beaucoup de choses que les Congolais ils voulaient exploiter ça en extérieur. Parce que nous avons aussi des milliards et des milliards ici au Congo, ce que ça doit commencer à aider aussi les autres pays qui sont à l'extérieur de notre pays, même dans d'autres continents, ici en Afrique.
Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Alain Parfait, Ngulungu, à vous la parole.
Bon, répondant aux deux questions de nos amis Glody de Kinshasa et Dr Christian de Bounia, de manière claire, j'aimerais dire qu'il y a possibilité pour notre gouvernement, à travers la mobilisation ou soit la mise en place des mécanismes financiers internes pour pouvoir mobiliser des financements afin de venir en aide à nos aires protégées. Il est possible, j'ai parlé tantôt de pouvoir appliquer les principes pollueurs-payeurs tout en respectant les normes environnementales. Je parlais de l'écofiscalité, je parlais par exemple du marché des droits. Des droits par une régulation, de pouvoir commencer à échanger des droits, notamment ici j'ai fait allusion au marché du carbone. Les carbones qui sont stockés dans les aires protégées peuvent être compensés par un mécanisme judiciaire à travers justement, non pas seulement les marchés internationaux, mais on peut les développer sous forme d'une bourse ici interne pour pouvoir commencer à avoir des moyens financiers en vue de pouvoir supporter le coût social et environnemental des aires protégées. Et donc, ces incitations-là ne peuvent le mettre en place que seul le gouvernement, évidemment en collaboration avec d'autres partenaires extérieurs. Et donc, ce sont là des mécanismes que nous pouvons mettre en place pour penser à mobiliser les moyens financiers en vue de pouvoir, si vous voulez, commencer à sécuriser nos aires protégées, mais aussi, comme vous le savez, les aires protégées regorgent une biodiversité qui sont en train d'être épuisées par les activités anthropiques. Et donc, le monde, tout comme la communauté internationale, en a besoin effectivement pour justement et tenter de pouvoir sauvegarder les pays qui nous restent en termes de biodiversité. Et donc, nous pensons que ces instruments-là, mis au service du gouvernement, peuvent être très utiles pour maintenir, garder une sorte d'équilibre dans la gestion des aires protégées.
Voilà, un expert à la conférence de Kigali a estimé qu'il faut environ 1000 dollars par kilomètre carré pour bien gérer une aire protégée. Alain Parfait, quel est votre avis?
Bon, pour nous, les études ont clairement démontré que le financement public, que ce soit international ou les revenus du tourisme, donc constituent les mécanismes actuels de financement pour nos aires protégées. Parce que, par exemple, en 2013, on a remarqué, on a enregistré, notamment dans le parc national de Kahuzi-Biega, dans le parc national de Maïko, on a enregistré pour juste seulement pour le PNKB, donc le parc national Kahuzi-Biega, une allocation financière de 591 dollars le kilomètre carré. Évidemment, 2013, c'est plusieurs années passées. Actuellement, il faut actualiser toutes ces données-là économiques et les mettre au service de la gestion des aires protégées. Donc, on peut estimer qu'il faut, plus ou moins 1000 dollars kilomètre carré pour assurer une bonne gestion d'une aire protégée.
Bien, Glody veut savoir pourquoi attendre les financements de l'extérieur et quand on reçoit les financements des bailleurs, en retour, comment est-ce que nous allons rembourser cet argent-là?
Bon, je crois que l'appel de Kigali est clair, il nous appelle à l'action, que ce soit le gouvernement, la société civile ou le secteur privé, de pouvoir mettre en place des mécanismes participatifs pour assurer une gestion durable des aires protégées. Et donc, le secteur privé, tout comme la société civile, a un rôle à jouer pour donner une valeur économique aux aires protégées, c'est-à-dire au secteur privé d'apporter des financements à la société civile, de faire le travail, un travail non pas seulement de sensibilisation, mais de monitoring aussi sur tous les impacts, toutes les externalités qu'il y a dans la gestion, si vous voulez, dans le management d'une aire protégée, mais aussi pour vérifier si les droits, par exemple, des communautés riveraines sont-ils respectés. Et donc, ce genre de travail, cette unité-là d'action peut faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de chances actuellement de pouvoir gérer de manière durable une aire protégée que de les gérer de manière totalitaire comme le faisait le gouvernement dans les années passées qui a causé beaucoup d'impact aussi sur le plan que ce soit des droits humains mais aussi sur le plan environnemental.
Bien, on va accueillir Justin de Bounia et puis un autre Justin depuis Moubi. Nous parlons du financement durable des aires protégées. Justin de Bounia, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute.
Oui, en tout cas, selon moi, l'invité qui parle de comment créer les emplois verts dans les aires protégées, néanmoins, on ne peut pas faire la promotion d'emplois verts sans des lois adaptées au changement climatique du contexte, Monsieur Jody. J'aimerais demander à notre invité, nous avons des FFM qui sont envahis par le ministre, par des groupes armés, il faut tout ce qu'il veut, et puis je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement prévoit à tout ça. Et puis ma question aussi est celle de savoir, M. Jody, pendant que la RDC, je connais que c'est un pays qui a beaucoup plus d'aires protégées en Afrique. Et puis, la RDC a gagné quoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que la RDC a déjà gagné par rapport à tous ces aires qu'il a protégées. Merci et bon début de la semaine.
Bien, on dit que la RDC a autour de 9 parcs et une soixantaine de domaines de chasse et réserve. Justin Bainé, vous êtes à Moubi. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très contents avec cette thématique.
Quelle est votre question, Justin?
Ma préoccupation est d'abord de voir comment vraiment les financements se font dans les pays à tout temps, alors qu'il y a encore des points qui sont un peu sérieux par rapport à la sécurité. Vous verrez que le problème de ce qu'on appelle à protéger nécessite d'abord une sécurité qui est responsable. Vous verrez qu'il y aura des gens qui peuvent garder d'abord la sécurité dans des parcs qui nous entourent. Mais les insurgés, les hors-la-loi, sont forts et sont un peu peut-être non contrôlés d'ailleurs, parce que vous verrez qu'il y a l'insécurité, par exemple, ici au Kivu, au nord Kivu, où au moins une milice qui va durer au moins plus d'un mois, là où le gouvernement se trouve. Comment maintenant cette terre pourra être gardée alors que d'abord, l'insécurité est dans toutes les tendues positives et possibles? C'est pourquoi nous allons demander au gouvernement pour qu'il y ait un contrôle aux airs, qu'il y ait d'abord une sécurité responsable, qu'il contrôle d'abord l'entité, qu'il contrôle la nation, donc le pays, pour qu'il puisse garder maintenant la sécurité. Et que ce financement ait au moins un contrôle, puisque pas mal de financements qui se font au Congo, ben, on ne voit rien. Vous verrez que même les énergies au Congo, ça devient un problème. C'est ce qui pousse même que la population puisse se retrouver dans l'impossibilité, dans la condition de chercher même des bois de chauffage au niveau de parcs. Et le soleil va faire maintenant défaut pour dégrader la situation humaine. Donc, la sécurité est la première des choses pour que le gouvernement puisse un peu trouver une solution passable pour le faire, comme nous appelons même nos parcs.
Merci. La sécurité est un impératif avant de penser au financement ou à toute activité de protection des ciseurs. Monsieur Alain Parfait-Ngoulungo.
Oui, je crois que la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement est claire là-dessus, parce que cette loi reconnaît au pouvoir central cette responsabilité, cette compétence de pouvoir justement développer un programme pour assurer la protection non pas seulement de l'environnement mais aussi de la diversité biologique. Et comme vous le savez, la RDC a ratifié la Convention sur la diversité biologique qui reconnaît par la même occasion l'importance de la diversité biologique ainsi que sa valeur inestimable non pas seulement pour nos générations mais pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Nous devons penser maintenant mais réfléchir aussi pour les générations qui arrivent. Par rapport à notre ami Justin, docteur Christian, je crois qu'il a totalement raison. La contrainte majeure pour l'ensemble de nos aires protégées, c'est la sécurité. La question est celle de savoir comment peut-on développer ces aires protégées qui sont actuellement en proie à l'occupation, si vous voulez, qui sont occupées par les groupes armés. C'est ça la question fondamentale que le gouvernement est appelé à résoudre avant de pouvoir penser aux investissements, à la mobilisation des fonds pour en assurer une gestion durable. Je crois que le gouvernement fournit déjà des efforts à travers le corps PPSM qui travaille aux côtés des forces armées congolaises pour traquer tous les mouvements rebelles qui sont dans les aires protégées et voire même les parcs nationaux. Et comme tu l'as dit là, merci beaucoup pour la correction. Donc il y a un réseau de neuf parcs nationaux et une soixantaine de réserves naturelles que le gouvernement a mis au service non pas seulement de l'humanité, mais la conservation que nous faisons ici, et ça il faut le dire clairement aux auditeurs, c'est d'abord pour notre bien. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en perte de vitesse avec tout ce qu'il y a trop au changement climatique. Il nous est de notre responsabilité de pouvoir sauvegarder le fait qui nous reste pour non pas seulement nous, mais les générations futures. Et cela a été démontré que les pays qui font un énorme sacrifice en termes de conservation ont beaucoup plus de chances de bénéficier de ces atouts, de ces potentiels en termes de biodiversité,
pour leur dire, non, par exemple, et voire même pour les cultures, pour sauvegarder leur culture et surtout les communautés riveraines qui habitent tout autour de ces aires protégées. Et donc nous faisons notre part. Si la communauté internationale ne suit pas, c'est son problème, mais je crois que nous sommes un État souverain et au moment venu, nous allons faire des choix stratégiques qui s'imposent pour non pas seulement sauvegarder ces patrimoines naturels importants pour l'humanité, mais aussi pour en bénéficier en termes des rentes, en termes des bénéfices co-bénéfices économiques pour justement booster notre développement, qui soit un développement durable.
Quelqu'un a dit tout à l'heure que si il y a des choses à financer, c'est d'abord financer des activités en faveur des communautés riveraines afin de réduire la pression sur les aires protégées.
Stratégiquement, je suis d'accord avec lui parce qu'il ne faut pas s'élever. Hein. Il faut vraiment trouver d'abord des solutions face à la pression anthropique sur les aires protégées avant de penser à développer ou à plaire aux partenaires internationaux. Il faut trouver la solution à la pauvreté qui amène les gens à pouvoir entrer en forêt, exploiter les ressources naturelles, qui sont d'ailleurs des activités légitimes reconnues par les réglementations en vigueur. Mais il va falloir voir dans quelle mesure réduire petit à petit cette pression-là humaine sur la forêt et sur la biodiversité pour en limiter les dégâts et les impacts.
Voilà, quelqu'un, Justin, a posé la question par rapport au déboisement. Qu'est-ce qui est fait par rapport pour reboiser ces espaces après la coupe de bois?
Il y a un fonds forestier national qui a pour mission justement de pouvoir financer les activités des reboisements après plusieurs activités, notamment minières, hydrocarbures, agricoles, ainsi de suite. Et je crois que ton micro peut être dirigé vers nos amis là, du Fonds forestier national pour vous dire exactement avec quoi ils font, avec toutes les taxes payées pour justement mener une telle activité.
Bien, pour terminer, Alain Parfait Ngoulungou, je rappelle que vous êtes expert en matière climatique, négociation, financement climat, expert en environnement, représentant pays de l'ONG Ténure Facility. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au financement durable des aires protégées?
Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'il faut dégager une vision claire de notre pays par rapport à ce que pensent les pays pour financer de manière durable la gestion des aires protégées. Et un auditeur, un compatriote nous a rappelé ici qu'il était désillusionné à attendre toujours le financement international pour appuyer les activités, si vous voulez, la gestion de nos aires protégées. Je partage complètement ce point de vue, mais je crois qu'il faut commencer par dégager une vision claire. Comment nous pensons-nous assurer la conservation, que ce soit des parcs ou du réseau d'air protégé qui regorge un autre pays? Comment faisons-nous pour maintenir intact ces réseaux-là et que cela soit un réseau viable en termes d'activités écotouristiques développées pour justement dégager son importance économique dans les budgets, dans les PIB au niveau national? Et donc ce sont des questions que le gouvernement est appelé, non pas seulement le gouvernement, mais toutes les parties prenantes sont appelées à répondre pour dégager un cadre afin d'assurer un financement durable aux aires protégées de la RDC au lieu d'étendre toujours la main vers la coopération internationale. Et donc tous les moyens sont mis en place pour mobiliser sur le plan local les ressources afin de pouvoir assurer cette gestion-là durable.
Bien, Alain Parfait Ngoulungou, expert en financement climatique, ancien expert technique au programme gouvernance forestière et climatique chez WWF et puis représentant pays de l'ONG Ténure Facility. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et bonne semaine.
Merci, merci.
Kioka nanu moke a kelia. Ngaina bominzela poya baninga e.
kitoko yo salia mama.